En 67, je suis juste sortie du lycée où je venais de passer une année absolument formidable en philo. En plus, j'étais au lycée pratiquement une des rares élèves venant d'un milieu ouvrier. Presque toutes les élèves venaient de la moyenne bourgeoisie ou de bourgeoisie. Mon père était un tailleur de pierre, il venait d'Italie. Et ensuite, il a trouvé un travail comme maçon, il est venu chercher sa famille et moi je suis arrivée en France à ce moment-là. Donc on était en 51. Nous étions dans un lycée où il n'y avait que des jeunes filles, avec des professeurs femmes. On ne portait pas de pantalon, sauf lorsqu'il faisait très froid, et encore, il fallait mettre une jupe par-dessus. Enfin, vous voyez l'atmosphère, on n'avait pas le droit de se maquiller. Donc tout ça, c'était l'atmosphère. Et arrive notre prof de philo, alors un homme qui, à mon avis, à l'époque, ne devait même pas avoir 30 ans, il devait avoir 25, 26 ans. Il faisait du théâtre. Il arrivait fatigué, il s'asseyait sur le bureau au lieu de s'asseoir derrière. Il nous faisait hurler parce qu'il nous parlait de l'enfant polymorphe, du pervers polymorphe. Et ce prof de philo, ça avait été une révélation pour moi. Mais seulement, j'étais un peu timide, donc j'étais un peu en retrait. Il a commencé à partir de Pâques à aller au café avec des élèves. Alors moi, je mourais d'envie d'y aller. J'étais jamais allée dans un café. J'étais élevée de façon extrêmement stricte par ma mère. J'avais pas le droit de sortir. Et en cachette, je suis allée moi aussi au café. Alors je ne disais rien du tout. J'écoutais les autres parce qu'en plus les autres, elles allaient au théâtre, elles allaient au cinéma. Et moi, ça pas du tout. Donc ce prof, ça a été la révolution personnelle. Je me dis, mais alors voilà, ce prof-là, contrairement aux autres, il n'a pas peur de descendre de son piédestal. Et donc, pour moi, ça m'ouvre tout un. On peut vivre différemment de ce qu'on nous dit. Et donc, ça commence à bouger chez moi. J'ai l'impression que j'ai la vie devant moi. Je suis pleine d'enthousiasme, vraiment. Et je me dis, bah, je vais aller en faculté et je vais faire des études. Et là, coup de théâtre. On me convoque, la directrice et surveillante générale me convoque et m'explique que je suis étrangère, que je n'ai donc pas droit à des bourses pour entrer en faculté, que d'autre part, c'est vrai que je suis une bonne élève, mais que je ne suis pas brillante, et que donc elle me conseille fortement de ne pas aller en faculté, mais d'aller apprendre un métier. Et comme viennent de se créer les classes de brevet de technicien supérieur de secrétariat, d'aller me faire un BTS de secrétariat. Alors là, pour moi, c'est une claque terrible. Mais comme je suis une femme raisonnable, je me dis, bon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de génial. Donc, je m'inscris et je vais en BTS, mais le cœur brisé. Et là, je m'aperçois qu'au lycée, j'étais avec un certain type de personnes, donc moyenne et haute bourgeoisie. Et donc, je me retrouve dans un lycée technique où là, je ne trouve que des enfants d'ouvriers ou de petits artisans. Alors je me dis, tiens, c'est étrange. Et puis là, je m'ennuie terriblement avec la sténo, la dactylo, tout ça. Il n'y a que les cours de français et d'histoire qui m'intéressent un peu. Tout le reste, le droit de commerce, enfin, tout ça, c'est bon. Mes parents trouvent ça bien parce que déjà, ils voulaient me faire arrêter les études en troisième. Et donc, que finalement, j'aille. Alors là, ils trouvent ça un peu long quand même. Hein, mais bon, mais n'empêche, je vais apprendre des choses qui vont vraiment servir finalement. Et donc, on espère que bientôt, je vais pouvoir travailler et rapporter une paye. Donc, ils sont très contents. Et là, en mai 68, mon père tombe malade, est hospitalisé à la Salpêtrière, donc au cœur de Paris. Nous habitions la banlieue. Je ne venais jamais à Paris, peut-être une ou deux fois par an, vers les grands magasins, boulevard Haussmann, mais c'est tout. Et là, pendant tout le mois de mai, mon père est à la Salpêtrière. Et je viens au quartier latin, pratiquement, enfin, juste à côté, tous les jours pendant que mon père est en train de mourir, avec les manifestants de l'autre côté.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Pendant des années, nous avons manifesté. Nous avons manifesté, on ne nous a pas écoutés.
Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent!
L'affrontement est là, l'affrontement l'affrontement existe.
C'est un moment très fort parce que je me dis, il y a une violence terrible et tout ça, c'est, ça correspond à ce que je ressens moi à l'intérieur de moi, cette violence. Et donc je trouve ça très bien que l'autre côté ça pète. Quand je rentre chez moi, j'écoute la radio. De toute façon, de chez moi, on entend les déflagrations qui passent de la Seine et tout ça. Et donc pendant tout le mois de mai, j'ai ces deux choses-là. Mai 68, les révoltes, les barricades d'un côté, la mort de mon père, ouvrier, dans un hôpital près du quartier latin.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça brûle dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vague.
Quand mon père meurt, j'ai l'impression qu'on me l'a fait renier. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un peu honte, des fois quand il vient me chercher au lycée avec sa casquette, son air fatigué, tout ça. Et quand il meurt, je me dis, mais pourquoi on m'a fait renier mon père ouvrier, ma mère aussi, elle avait un peu honte d'avoir un mari ouvrier, donc tout ça. Je me dis, et donc je veux me racheter un peu par rapport à ça, et donc j'achète La condition ouvrière de Simone Veil et Élise ou la vraie vie, et je me promène avec ces livres-là sous le bras. Je traverse toute la France avec le fourgon mortuaire, sans essence, avec des bidons. On emmène mon père pour l'enterrer dans la tombe qu'il a lui-même sculptée et qui se trouve dans le village où je suis née. Je crois que c'était donc vers la fin du mois de mai ou début du mois de juin, parce que les chambres froides étaient débordantes, on n'enterrait plus. Et donc voilà. Et après, là, je crois que je ne reviens pas en France tout de suite. Je reste en Italie, où ma sœur vit d'ailleurs. Je suis à la montagne. Et là, un soir, dans un bar, il y a un homme qui est accoudé au comptoir. C'est un jeune ouvrier français. Lui, il dit qu'il est manœuvre, qu'il travaille dans une usine. Et moi, je m'approche, j'écoute, et j'ai avec moi Élise ou la vraie vie et La condition ouvrière. Alors, il me dit, c'est quoi ce truc? Bon, il me parle de mes livres. Et puis, il doit me trouver un peu policé. Lui vient de descendre des barricades. Il doit avoir 24 ans, 24-25 ans. Il a commencé à travailler à 14 ans. Il est complètement déçu. Il avait l'impression que plus jamais rien ne serait comme avant. Et puis en fait, lui et les gars qui sont autour de lui, ils croyaient que c'était le grand soir, qu'il ne travaillerait plus du tout comme c'était avant, les petits chefs et tout ça. Donc il est très en révolte. Ça me fascine tout ça. Donc je tombe raide amoureuse et puis lui aussi. Je pense que tous les deux, on a très peur. Lui, il a très peur parce qu'il pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce que je suis. Moi, j'ai très peur parce que j'ai l'impression que je vais être entraînée dans quelque chose qui me dépasse et dont je ne sais pas où je vais, donc on a très peur. On sait qu'on vit tous les deux dans la région parisienne, donc on décide de se revoir à la rentrée. Et on rentre à Paris et un soir, très vite, il vient. Alors, ma mère voulait que j'épouse un monsieur bien, sous tout rapport, qui puisse me faire une belle vie, tout ça. Quand elle voit que je suis avec un prolo, là, elle trouve que c'est absolument la catastrophe totale, elle n'est pas du tout contente. Et là, on commence à se voir régulièrement, et je décide que c'est à cet homme-là que je vais offrir ma virginité. C'est très symbolique, et je trouve que c'est un magnifique cadeau que je lui fais, donc je suis très heureuse, et je vais lui faire une surprise. Mais je ne veux absolument pas être enceinte. Donc, je me dis, il faut que je prenne la pilule qui vient juste d'arriver sur le marché, là. Et je vais donc prendre un rendez-vous chez un médecin à côté de chez moi. Et moi, je n'étais jamais allée chez un gynécologue de ma vie. Donc, il m'explique que de toute façon, je ne suis pas majeure, donc il ne peut pas me donner la pilule sans l'autorisation de mes parents. Moi, je vis comme une humiliation puisque je suis en train de lui parler de ma sexualité à quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de sexualité à personne, mais à personne. Je n'ai jamais vu ni mon père, ni mon frère, ni ma mère, personne nu, jamais. Lui, il m'explique que ça se décide pas comme ça, que les jeunes filles doivent rester pures jusqu'au mariage et tout ça. Il me fait la morale. Donc moi, je suis chrétienne. Je communie tous les dimanches. Donc il est en train de t'appuyer sur cette touche-là aussi. Donc je pars sans rien, en colère, humiliée, mais je suis têtue. Et donc j'avais entendu parler d'une fille qui avait été voir un médecin qui lui avait donné la pilule. Donc je prends rendez-vous chez ce médecin, toujours un homme, à Montparnasse, près de Jockey Club et tout ça. Donc c'est un quartier où les gens sont des mœurs libres. Donc quand j'arrive chez ce monsieur, il me demande combien j'ai de partenaires. Alors là, moi, je suis bouche bée. Donc, je lui dis, j'en ai qu'un et qu'en fait, je n'ai pas de partenaire. Enfin, alors, je lui explique l'histoire de la virginité. Ça doit essayer d'étonner tout ça, je pense. Je pense que ça doit être assez drôle. Et il me dit, bon, très bien, je vais vous examiner. Vous pouvez juste enlever vos slips, et vos chaussures, vous gardez vos chaussettes. Alors là, je tombe des nues parce que je pensais jamais qu'il me dirait une chose pareille. Je n'ai jamais montré mon sexe à personne, surtout pas à un homme. Donc je suis là, sans bouger. Je me rappelle juste que j'étais totalement stressée par tout ça, mais que je veux ma pilule. Donc après, il me donne la pilule, il me donne une ordonnance. À l'époque, c'était incroyable parce que sans analyse, sans rien, c'était des doses quand même maousse. Donc j'achète ma plaquette pendant 21 jours. Après le cinquième jour de mes règles, je prends ma pilule. Je suis pas mal mal au cœur, malade, parce que c'était des doses assez fortes. Donc, mais je dis à personne, je fais tout mon truc en cachette. Et quand le jour J arrive, où je me dis, ça y est, maintenant je suis protégée, je peux faire l'amour avec cet homme-là, et je vais le lui dire, et je vais lui dire que voilà, je t'offre mon corps. Donc je suis complètement émue, excitée, heureuse, vraiment. Et donc, c'est un samedi après-midi. Et donc, j'arrive. Et donc, je ne sais pas trop comment j'amène la chose. En fait, je lui dis que voilà, moi qui suis vierge, italienne, catholique, etc., je vais lui offrir, hors mariage, je vais lui offrir une nuit d'amour. Et là, lui, il est absolument abasourdi, peiné. Il comprend pas. Il a l'impression que je suis une stratège du sexe, je ne sais pas, quelque chose qui ne correspond pas à l'idée qu'il a de moi, je pense, de quelqu'un de pur et de simple et tout ça. Et donc, il est complètement catastrophé. Et alors, moi, je lui dis, mais toi, tu m'as, enfin, la révolution sexuelle, la liberté, etc. C'est ce que tu dis, hein, tout ça. Et la seule chose qu'il arrive à me dire, je crois, parce que sûr qu'il m'a dit ça, il m'a dit, oui, mais toi, tu te rabaisse à faire comme n'importe quelle femme qui va prendre une pilule pour baiser avec quelqu'un, quoi. Lui, normalement, c'est l'homme qui, la femme propose et l'homme dispose. Et là, c'est le contraire. Ah, donc moi, c'est une blessure profonde aussi pour moi, une déception énorme. Et donc je m'en vais reprendre mon métro en pleurant là. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris que c'était un cadeau pour lui. Et donc je m'éloigne et je suis malheureuse et je pleure. En fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à sortir de ça, à changer vraiment. Il y a une théorie et puis il y a la pratique. Et la pratique, quand il s'agit de ton propre corps, mais surtout du corps de ta compagne, alors là, ça pose problème.